Araf, boker tov.
Boker tov, bienvenue.
Toda Rabah, merci de nous recevoir chez vous.
Avec plaisir.
Alors, si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu du Mashiach.
Oula,
le Messie. Et j'allais dire, même avant de commencer les questions, parce que j'ai plein de questions, des auditeurs, plein de questions. Quand je vous dis Mashiach, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête?
Bah, t'as très bien commencé. Est-ce qu'on commence par parler du Messie ou du Mashiach?
Ah, c'est pas le même.
Bah non, c'est pas le même. Du moins dans la conscience qu'on en a. Bon, évidemment, il y a Messi, le joueur de foot. Ça, c'est une chose.
Qui est en France encore pour quelques temps. Mais
voilà, ça, c'est, on verra. Et quand on parle de Messi, messianisme, tout de suite, il y a une dimension un petit peu mystique, une dimension un petit peu surnaturelle, une dimension un petit peu, j'ai envie de dire, Harry Potter avec des péotes. Mm-hmm. Mashiach, c'est complètement autre chose. Mashiach, bon, le problème, c'est qu'on parle pas forcément l'hébreu. Mais Mashiach, ça vient d'un verbe. Ça vient du verbe Limshoach, Mashuach, ça veut dire qu'il a été oint. Le Mashiach, littéralement, ça veut dire celui qui a été oint, celui à qui on a mis de l'huile sur la tête. Or, dans le judaïsme, il n'y a que deux personnages à qui on met de l'huile sur la tête, soit le Kohen, Gadol, mais là, ce n'est pas le Mashiach pour le coup, puisque ce n'est pas la même tribu, ce n'est pas la même vocation, le grand prêtre, et l'autre, c'est le roi.
Ça veut dire que... Pourquoi faire sur le Kohen ?
Oh, pour le Cohen, c'est la notion de mettre de l'huile d'onction sur quelqu'un, c'est pour montrer qu'il a un statut différent. Donc, il y a le statut différent dans le Beth Amikdash, le Cohen Gadol, puis il y a le statut différent au sein de la direction du peuple. Donc, si vous voulez, le Mashiach, c'est pas du tout de la mystique. Le Mashiach, c'est un roi.
Enfin, oint par Dieu, donc c'est Dieu qui le choisit. Donc, c'est un petit peu quand même...
Un petit peu mystique, un petit peu divin.
Un petit peu quand même. Alors, c'est-à-dire que Dieu connaît son prénom, c'est-à-dire...
Alors, il y a une grande différence entre le choix de Dieu et sa réalisation concrète. Prenons un exemple. Le papa du Mashiach. On parle toujours de Mashiach ben David. Alors, parlons de David deux secondes.
On va revenir.
Ouais, c'est
Mashiach ben Yosef.
Mais... T'inquiète pas, ça va venir. Mais en tout cas, prenons David deux secondes comme exemple, comme archétype. Eh bien, David a été choisi par Dieu. Dieu envoie le prophète Shmuel pour oindre David. Très bien. Seulement, tant que David n'a pas été accepté par le peuple juif, il n'est pas roi.
Il n'est pas roi, mais il est Mashiach.
Il est pas encore. Il est Mashiach, mais il est Mashiach en devenir, si tu veux. Il est en potentiel le Mashiach, mais il n'aura de réalité concrète que lorsqu'il sera le roi d'Israël.
C'est-à-dire que le Mashiach, c'est, même si le mot veut dire « oint par Dieu », c'est choisi par le peuple.
Ça ne veut pas dire « oint par Dieu ». Ça veut dire « oint tout court ».
Oint, ok.
Oint, oint.
C'est-à-dire,
il est oint celui à qui on a mis de l'huile sur la tête. Qui a mis de l'huile, c'est pas Dieu. Hein. C'est, en général, soit le Kohen... soit le Navi, le prophète. Mais ce n'est pas Dieu.
On va en revenir à la période actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un et dire « fonce » Mais on va revenir. Ah, juste avant, vous avez expliqué le Mashiach, c'est quelqu'un qui est oint. Mais c'est quoi son rôle?
Alors,
à quoi il sert?
C'est très important. C'est très important de bien comprendre cela. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Ça ne te dérange pas?
Avec plaisir.
Allons-y. On serait fou de penser que 2000 ans passer chez quelqu'un ne va pas nous influencer quelque peu. Même si on s'est bien protégé pendant ces 2000 ans, et de mal à la sorte. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a passé 2000 ans dans le monde chrétien, pour une grande partie du peuple juif. On a passé 1500 ans dans le monde musulman, pour une autre grande partie du peuple juif. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cette réalité-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre conception, des fois, du Mashiach, eh bien, a été... malheureusement grandement christianisé. Dans le sens où le Mashiach, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un espèce d'être semi-cosmique, semi-divin, un être qui n'est pas comme les autres. Et il y a cette formulation de dire « quand Mashiach il va venir, quand Mashiach il va venir ?» Genre, le monde va changer, les arbres feront pousser des croissants dans la rue et tout ira bien. Et je suis désolé de le dire, mais c'est une véritable conception chrétienne du messianisme. Le messianisme version juif n'a absolument pas cette vocation-là d'amener à un monde changé et divinisé et idéalisé. Le Mashiach, il a un rôle. Il a un rôle très important. C'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, Melech, d'abord. C'est-à-dire d'être le chef politique, le dirigeant du peuple juif. Le dirigeant du peuple juif, lorsque ce dernier peuple juif a retrouvé un statut de peuple.
Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple.
Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple et il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale si le peuple juif est éparpillé un peu partout. Donc il y a une notion de kibbutz galouyot, de retour des exilés, pour pouvoir avoir une souveraineté. Alors, à quoi elle sert cette souveraineté? Et donc, à quoi sert celui qui se tient à la tête du peuple juif? Eh bien, c'est de pouvoir remplir notre rôle aux yeux du monde, à savoir dévoiler au monde entier qu'il y a, un, la possibilité d'avoir une sainteté, pas seulement individuelle, mais collective, en tant que nation, être une nation sainte, c'est la première chose. Deuxièmement, eh bien, la possibilité d'expliquer et de dévoiler au monde comment s'attacher à Dieu, en tant que nation. Voilà le rôle, voilà le boulot. Et pour ce faire, eh bien, le Mashiach, il a besoin de pas mal de critères, de caractéristiques pour pouvoir remplir son rôle, on va y revenir. Mais tu comprends, le rôle du Mashiach n'est pas de faire des miracles, absolument pas, mais absolument pas. Dit le Rambam dans les lois sur le Mashiach, ne pense pas, comme le disent les débiles, c'est marqué noir sur blanc,
okay.
Je ne fais que non, citer, mais... ne pense pas, comme le disent les idiots, que le Mashiach il va faire des miracles, il va faire des choses, pas du tout. Pas du tout. Ne pense pas que le monde va devenir un monde miraculeux. Aolam Keminago Noeg. Oui, mon ami.
Vous avez dit, le Mashiach est un homme comme les autres. Il doit quand même avoir des caractéristiques
mentales. Il doit avoir plein de caractéristiques. D'ailleurs, c'est bien ce que tu me dis, parce que tu sais, il y a... Bon, évidemment, dans le christianisme, c'est une évidence, c'est clairement énoncé. Le Messie est passé très vite de statut de Messie à statut de fils de Dieu, à statut de Dieu lui-même. Rappelle-toi ce qui a marqué sur la basilique de l'Annonciation à Nazareth, là où on raconte l'histoire où Myriam, Marie, on lui a raconté qu'elle a marqué là-bas un verset des évangiles, « Vadavar nia basar » et la parole est devenue chair. Genre, Dieu, homme. Bon, c'est un vrai problème. Entre parenthèses, c'est très intéressant de voir comment un Israélien lambda, un juif, pense que les chrétiens voient Jésus. Pour un Israélien, il pense qu'il le voit comme le Messie, le Mashiach. Alors que si tu demandes à n'importe quel non-juif en France, ouais, c'est qui Jésus? C'est Dieu. C'est le fils de Dieu, pour ne pas dire c'est Dieu. Il y a eu une grande marloquette, comme tu le sais bien, Concile de Nicée, il y a quelques années, dans les fondements même du christianisme, Marloquette, c'était de savoir est-ce que Marie, Myriam, elle est Christotokos ou Théotokos, hein, évidemment, okay, c'est une grande Marloquette. Est-ce qu'elle est la mère du Mashiach ou la mère de Dieu? Et Nifsak la Halachasham chez eux, que c'est la mère de Dieu. Donc, autant te dire que chez eux, il y a une vraie dimension divine du Mashiach.
Alors, si on fait déjà les chrétiens, moi je vous propose de passer aux Arabes. Parce que eux aussi pensent que Mahomet c'est le Messie, c'est le Mashiach.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Oulala, c'est pas le Mashiach. Pour les chrétiens, Mahomet est le dernier prophète. C'est pas le Mashiach.
Ok.
C'est le prophète. C'est la dernière personne qui a transmise la parole de Dieu à l'homme. Donc c'est sa version qui est la bonne. Mais pour les musulmans, la chose est entendue puisque tous les autres prophètes, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme avant eux, sont en fait des musulmans, mais la version la plus aboutie, c'est la version de Mahomet. Donc en fait, c'est pas une question de messianisme là-bas. Il y a une espèce de messianisme dans l'islam chiite, pas dans l'islam sunnite, mais bon, on va pas...
Non, on va pas rentrer dedans.
On va pas rentrer là-dedans. Mais je me permets simplement de revenir sur cette dimension de c'est un homme. C'est un homme, c'est pas un dieu. Lorsque Moshe Rabbeinu est présenté dans la Torah, dans la paracha de Vaera, on va nous faire toute sa généalogie. On fait la famille, on raconte la famille de Yaakov, les enfants de Réhouven, de Shimon, de Lévi, jusqu'à Moshe. Et on s'arrête après Moshe, et après on passe à un autre sujet. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, pourquoi est-ce qu'on a fait cette généalogie, alors qu'a priori on sait déjà quelle est la famille de Moshe? Il dit, parce que Moshe, il va arriver, il va faire des choses assez incroyables. Faudrait pas que tu viennes à penser que c'est un homme-dieu. Non. On va te raconter toute sa généalogie pour que tu saches qu'il a un papa, il a une maman. C'est un être humain normal, il a une famille, comme tout le monde. Alors, un peu plus tout le monde que comme tout le monde, mais c'est un homme. Oui, il a des caractéristiques. Ça t'intéresse de les connaître?
Bien sûr.
Voilà. Alors, allons-y. Bah, là, c'est pas très compliqué non plus. Le Rambam, Maïmonide, nous a dressé une liste de ce qu'il faut pour être, pas le Mashiach, mais pour être éligible au Mashiach.
Alors, c'est ça, parce qu'il doit être choisi par le peuple.
Exactement. Et pour pouvoir remplir ce rôle-là, eh bien, il faut qu'ils remplissent un certain nombre de critères. C'est-à-dire, ces critères sont assez simples, finalement. D'abord, il doit descendre de la lignée de David. C'est peut-être la chose la plus compliquée à prouver. Mais, disons, une fois qu'il a prouvé cela, alors il doit être au Geba Torah, que David aviv, que Torah Shebirtav, Torah Shebaalpé. En d'autres termes, on dira aujourd'hui, ça doit être quelqu'un qui respecte la Torah.
Ah, parce que d'après d'autres rabbinim, etc., c'est quelqu'un qui doit pouvoir prendre une aiguille, transverser la Torah et dire par quelle lettre ça passe.
Mais d'abord, c'est assez interdit de casser un Sefer Torah exprès.
Non, mais c'est quelqu'un qui est capable de faire ça.
On nous a jamais dit qu'il devait être le Gdol Hador.
Ok.
Jamais. Je vais même te dire mieux que ça. David ne l'était pas. À l'époque de David, ben y a quand même quelqu'un d'autre qui est le chef du Sanhédrin. Tu comprends ? À l'époque de Chizkiyahou Melech Yehuda, un des descendants de David, qui avait été pressenti pour être le Mashiach, les anges voulaient faire de lui le Mashiach. Ben, il y avait Shevna à Sofer, qui était plus grand que lui en Torah. Donc si tu veux, le Mashiach ne doit pas être le grand rabbin de la génération. Mais il doit être respectueux de la Torah, pratiquant des mitzvot, Torah orale, Torah écrite, mais ce n'est pas forcément lui le chef spirituel du peuple juif, dans un premier temps. Parce que c'est vrai que le Rambam va nous expliquer que « Kshetit yashev malchuto alav », lorsque sa souveraineté sera, ça y est, établie, il est Mashiach, pas de problème, alors il reçoit un bonus de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, et là, c'est un autre level. Mais ce n'est absolument pas pour qu'il puisse devenir le Mashiach. C'est une fois qu'il est déjà Mashiach. La preuve en est que le Rambam, toujours, va nous donner comme exemple Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sans aucun doute, était dans sa génération le plus grand des rabbins. Voire même de toute la génération, puisque Moshe Rabbeinu, dans le Talmud, on va nous raconter que Moshe Rabbeinu, lui-même, va dire, en voyant l'esprit de Rabbi Akiva, il dit, mais attends, Dieu, tu as un homme comme ça dans tes réserves, et c'est par moi que tu donnes la Torah. Pour dire comme si Rabbi Akiva était encore plus grand que Moshe. Donc Rabbi Akiva, pas de doute. Seulement Rabbi Akiva ne se prend pas pour le Mashiach. Il va complètement suivre Shimon Bar Korva dans son combat contre les Romains et pensera de lui, c'est-à-dire Rabbi Akiva pense de Bar Korva que c'est lui le Mashiach. Et pas que lui-même, en tant que grand rabbin, c'est lui le Mashiach. Donc le Mashiach doit être respectueux de la Torah, pas forcément le plus grand de la génération.
Alors, il y a deux Mashiach. Si je me rappelle bien de mes études au Machon Meir, il y a le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David. C'est deux personnes, non pas forcément des personnes, qui ont des travaux différents, des choses à faire différentes. Est-ce qu'on peut un peu commencer par Mashiach Ben Yosef et après on passera au Mashiach Ben David, qui est un peu le plus important, parce qu'il n'y a que de lui qu'on parle essentiellement. Qui est le Mashiach Ben Yosef ?
Alors, il n'y a que de lui qu'on parle essentiellement. Pas parce que c'est lui le plus important, mais parce qu'il est possible que le Mashiach ben David remplisse également le rôle de Mashiach ben Yosef. Dans l'histoire, on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais dans l'idéal, un bonhomme aurait pu faire tous les boulots. C'est pour ça qu'on parle, parce que Mashiach ben Yosef ne peut pas faire que ce boulot-là, mais Mashiach ben David peut faire aussi celui de Mashiach ben Yosef. C'est pour ça qu'il Alors, est mis en avant. Que... Mais deux secondes. Qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre ? Mashiach ben Yosef, d'abord, ce n'est pas un bonhomme. Okay. À l'inverse de Mashiach ben David, qui est un bonhomme, qui a un rôle technique de roi, de chef politique du peuple juif, le Mashiach ben Yosef, c'est un concept qui va être porté par des hommes. Il y a plein de monde dans l'histoire juive qui vont avoir cette prina, on dira en hébreu, mais cette dimension de Mashiach ben Yosef. Le Harizal dira même de lui-même qu'il était prinat Mashiach ben Yosef. Mais il dira aussi que Yitzhak Avinu était Prinat Mashiach Ben Yosef, alors que Yitzhak, c'est l'arrière-grand-père de Yosef. Pas être Ben Yosef. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas un bonhomme, c'est un concept. Et c'est quoi le concept ? Eh bien, le concept, il est très simple. Mashiach Ben Yosef, c'est la construction physique de la dimension messianique.
Mais alors, pourquoi l'appeler Mashiach ?
Encore une fois, la dimension messianique a pris dans l'histoire juive une connotation très particulière de réalisation de l'histoire, de réussite de l'histoire. Cette réussite de l'histoire, eh bien, elle va s'appeler, dans la tradition juive, Yemot HaMashiach, les temps messianiques. Et le Rambam fera la différence entre Yemot HaMashiach et Yemé HaMelech HaMashiach. Donc les temps messianiques et les jours de Monsieur Mashiach. Donc, si tu veux, Mashiach Ben Yosef, ça fait partie de ces temps messianiques. D'ailleurs, c'est le point de départ, quelque part, des temps messianiques. Il y a cette construction de l'idéal messianique qui se met en place. Et après, il y a le deuxième étage. Mashiach ben David, on va en parler après. Donc Mashiach ben Yosef, c'est la construction physique du messianisme.
Du peuple.
Du peuple. Alors, pas du peuple en tant que toi et moi, mais du peuple en tant que nation. Tu vois, en hébreu, il y a une différence entre âme et goy.
Bien sûr.
Âme, ça vient du mot im. Im, ça veut dire avec. Âme, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont ensemble. Goy, c'est une nation, une souveraineté. Donc, âme, on peut être âme même quand on est en Égypte. Goy, c'est quand on sort de l'esclavage, qu'on redevient indépendant. Alors, à ce moment-là, on devient « Vatem tiuli mamlechet kohanim ve goy kadosh ». Quand on sort d'Égypte, c'est comme ça que Dieu nous dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte ». Donc, si tu veux, Mashiach ben Yosef, c'est tout ce qui va permettre à la réalisation de la nation d'Israël. En français, dans l'histoire, comment est-ce que ça s'est réalisé ? Par le sionisme laïque. Le sionisme laïque, sionisme national, pas le sionisme du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, qui ont ramené des juifs en Israël pour commencer à repeupler la terre d'Israël, ce qui était fantastique, ce qui était complètement nécessaire, parce qu'on n'aurait pas réussi à créer une dimension souveraine s'il n'y avait pas eu de juifs concrètement sur place. Mais la prise de position qu'il est temps de ramener une dimension de nation au peuple juif, de souveraineté, c'est ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef. Ça a été porté par des gens comme Binyamin Zeev, Théodore Herzl. Et le Rav Kook dira, lors de l'éloge funèbre de Herzl, qu'il est Ikveta de Mashiach ben Yosef, qu'il est les talons, les empreintes de Mashiach ben Yosef. Alors, vous allez me dire, le Rav Kook, c'est un Ashkenaz, est-ce que tu n'aurais pas un sfarad pour faire plaisir à tout le monde ? Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, Djerba, lui, dit, sans prendre de pincettes, Herzl, chez où, Mashiach ben Yosef ?
Ah, ok.
Clairement, c'est lui. Maintenant, c'est pas que lui. C'est tout ce qui est mis en place à ce moment-là. C'est l'Organisation sioniste mondiale, c'est le Yishuv, la Haganah, le Herzl, le Lehi. Tout ça, c'est Prinat, Mashiach ben Yosef. Et je sais pas si tu as envie qu'on aille plus loin là-dedans, mais
je sais pas, moi, t'as toujours. Envie, moi, t'as envie, plus hein, on y va.
Parce que le Talmud va nous poser la question. Il y a un moment donné, on va nous raconter dans le Talmud qu'il va y avoir un grand éloge funèbre. Le Talmud se pose la question, c'est pour qui qu'on va faire cet éloge funèbre ? L'un des avis, c'est pour le Mashiach ben Yosef qui sera tué. Et il y a tout un débat. Est-ce que quoi ? Le Mashiach ben Yosef, il va mourir ? Il ne va pas mourir ? C'est une grande dispute entre les sages du Niglé, c'est-à-dire du Talmud, et les sages de la Kabbalah. Est-ce qu'il va être tué, le Mashiach ben Yosef, ou pas ? Eh bien, finalement, nos sages de la Kabbalah vont dire, il y a un grand risque, mais si on prie pour lui, alors, il ne sera pas tué. De quoi on parle ? D'autant plus que la Gemara va nous dire qu'il va être tué par un monsieur qui s'appelle Romulus Aracha. Certaines versions diront Armilus ou Romulus. Bon, Romulus, ça fait écho à Rome. Romulus, c'est le fondateur de Rome. Donc, c'est quoi ? C'est celui qui représente l'Empire occidental, ce que tu veux. Mais écoute, c'est intéressant de voir que dans l'histoire, comment, encore une fois, ça aurait pu se passer autrement. Mais Akadosh Baruch Hu décide de faire tourner les choses de cette façon que finalement, eh bien, l'entreprise, Mashiach ben Yosef, qui va amener à la souveraineté, arrive à un cap. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a déjà presque 400 000 juifs en Israël et les bribes de la reconstruction sont déjà mises en place. Il y a déjà eu la déclaration Balfour. On est en train de se mettre en place. Alors certes, il y a les Anglais, mais à ce moment-là, il y a un homme qui menace de détruire toute cette reconstruction, pas encore, mais presque nationale. Cet homme, c'est un des généraux de l'armée allemande qui vient durant la Deuxième Guerre mondiale avec la Afrika Korps et qui vient pour détruire, bon pas que, hein, il vient pour contrôler toute la Méditerranée par l'Afrique, mais il veut remonter par la Palestine mandataire et détruire tous les juifs qui sont en terre d'Israël à ce moment-là. Et ben, l'histoire a voulu que ce général il porte le nom de Rommel, Romulus. Il se passe quelque chose ici. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, c'est tout ce qui va mettre en place jusqu'à la création de l'État d'Israël pour réaliser le programme Mashiach ben Yosef. C'est le premier étage, c'est la construction physique, l'État d'Israël. La réussite souveraine du peuple juif. Mashiach ben David, c'est celui qui va y amener la Neshama.
Oui, c'est le corps.
Mashiach ben Yosef, c'est le corps. Mashiach ben David, c'est la Neshama.
Et quel est son rôle ? Alors, Mashiach ben David, c'est Neshama, donc c'est le côté Torah.
Ça passe entre autres par la Torah, c'est-à-dire que la Neshama est là pour me connecter à Dieu. Mais moi, pas que moi, moi qui dois remplir mon rôle aux yeux de l'humanité.
Pourtant, le Mashiach ben David, il doit faire la guerre d'Israël.
Bien sûr, parce que le Mashiach ben Yosef, il a mis en place la souveraineté. Maintenant, à un moment donné, il faut que cette souveraineté elle soit pleine et entière. Prenons un exemple. Lorsque tu vas en 1948 et que tu crées l'État d'Israël, ça y est, on a une souveraineté. D'accord, mais tu n'es pas souverain en Judée-Samarie. Les Jordaniens, pour l'instant, ont gagné la guerre et c'est eux qui sont là-bas, dans cette partie d'Israël. Bon, alors tu as une souveraineté, mais elle n'est pas pleine et entière. Donc, il y a un moment donné, si on n'a pas fait le boulot avant, eh bien, ma chère Ben David, il doit les Hachlim, Milchemot Hachem.
Alors, c'est un peu... moi, toujours, moi, du point de vue du peuple juif, où nous, oui, on veut une indépendance sur Israël, on veut le Shomron, on veut remonter sur l'État d'Israël, comme à l'époque David Ameller, jusqu'à le Frat, etc. Mais est-ce que le rôle du peuple juif est donc d'amener ce message divin sur Terre? Est-ce que faire la guerre, ça veut dire devenir dominant, être le peuple, entre guillemets, combattant comme ça, est-ce que ça ne va pas à l'encontre un petit peu de ce message-là? Parce que, alors peut-être Dieu est amour, c'est trop chrétien, on veut la paix dans le monde, etc., c'est peut-être trop chrétien, mais oui, il y a un objectif comme ça, qu'il n'y ait plus de guerre. Que...
Bien sûr, on veut qu'il n'y ait pas la guerre. D'ailleurs, Shlomo HaMelech, il a réussi à avoir les frontières dont tu parles, pas jusqu'à l'Euphrate, mais il avait des grandes frontières, et pendant 40 ans, il a régné et il a réussi à amener la parole de Dieu jusqu'aux confins de son royaume et au-delà, sans faire une seule guerre. Lui, il a décidé que son influence, elle passerait par des mariages. On dit qu'il s'est marié avec 1000 femmes. C'était en fait 1000 princesses, 1000 chefs, filles de chefs de tribus, de royaumes. Je vais connecter tout le monde par la paix. Donc c'est très possible. Personne n'oblige à faire la guerre. D'ailleurs, lorsque on va recevoir la mitzvah dans la Torah, de conquérir la terre d'Israël. Et j'y reviendrai dans deux secondes de pourquoi. La première chose que Dieu va dire à Yoshua, c'est que lorsque tu arrives en terre d'Israël, tu ne proposes pas la guerre en premier. D'abord, tu proposes la paix. C'est-à-dire, tu dis, écoute, je viens. Pourquoi je viens? Parce que Dieu m'a demandé de venir ici, m'a donné cette terre-là. Sache que c'est la parole de Dieu et ça va se passer. Maintenant, si tu veux bien être mon ami, respecter le fait que c'est maintenant moi qui suis le dirigeant ici, j'ai aucun problème que tu vives ici avec moi, que tu vives en paix avec moi. Ger Toshav, tu acceptes cette loi de Noach, tu acceptes la souveraineté israélienne, juive, dans cette terre-là, aucun problème que tu vives et qu'on fasse des affaires, qu'on soit des très bons amis, et pas de problème. Tu veux pas, tu peux aussi décider de partir. Et on t'aidera même à partir. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu veux pas faire la paix avec moi. Tu veux pas partir, tu veux faire la guerre avec moi, bon, on va faire la guerre.
Alors, est-ce que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire politiquement, on essaie, oui, de reconquérir, entre guillemets, notre souveraineté juive, notamment dans le Shomron, etc., est-ce qu'on ne devrait pas attendre le Mashiach, en fait, vu que c'est son rôle à lui? Le Mashiach Ben Yosef, on a dit, il est en place, il continue de grandir, la souveraineté continue de grandir, mais est-ce qu'on ne devrait pas attendre le Mashiach Ben David pour que ce soit, entre guillemets, avec cette personne-là qui est ces critères-là, pour que ce soit, entre guillemets, plus efficace et plus évident? Là, c'est pas tout.
Ok. Et plus de batterie.
Hein?
Et plus de batterie.
C'est moi qui coupais.
Ouais.
Ah bah, je sais pas. Je crois que c'était vous.
Ça? Oh, au revoir. Est-ce qu'on devrait pas attendre le Mashiach? Je vais te dire d'abord, mitzvah.
J'ai pas encore parlé du Betamikdash.
Bien sûr. Mitzvah Abba Aliatra, Altachmitzena. Une mitzvah qui se présente devant toi, ne la remets pas à demain. C'est-à-dire que, mais on va attendre le Mashiach. Ça ne veut rien dire, on va attendre le Mashiach. On doit agir. Maintenant, ce qu'on va réussir à faire, on va réussir à faire. Ça veut dire qu'on aura eu la bracha d'Akadosh Baruch Hu pour le réussir. Ce qu'on ne va pas réussir, c'est que, semble-t-il, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on réussisse à ce moment-là. Mais ça ne nous enlève pas la nécessité d'essayer. Donc nous, on ne va attendre rien du tout. On a attendu 2000 ans, ça suffit. D'autant plus que Akadosh Baruch Hu nous a montré que ça marchait. Donc maintenant, ce qu'on réussira à faire, on réussira à faire. Ce qu'on ne réussira pas à faire, on finira plus tard. On verra. On a le temps.
Le Mashiach. Donc, on a parlé beaucoup du côté État, du côté militaire, du côté... Qu'est-ce qu'il doit faire au niveau du peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il doit...
Alors,
surtout en ce moment où on commence à rentrer dans une période, et c'est un peu bizarre que ça arrive maintenant, etc. Bon, vous demanderez au Rav Yoel Ben Arouch, il a toute une explication pour pourquoi maintenant. Mais on vit des moments où le peuple n'a presque jamais été autant divisé, où le monde est de plus en plus, j'allais dire, dépressif. C'est-à-dire, j'ai pas d'autre mot. Tout devient compliqué. Tout est... Voilà, on vit dans un flou complet. Est-ce que... Au niveau du peuple d'Israël, après on reviendra un peu au monde entier, mais est-ce qu'au niveau du peuple d'Israël, il y a un rôle du Mashiach d'unir?
Je ne vais absolument pas me cacher et je vais te répondre le plus sincèrement du monde, mais je suis obligé d'abord de revenir sur ta question parce que je ne suis pas d'accord avec ta question. Donc, On n'a jamais été autant divisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 2 manifestations et demie. Parce que les gens ont crié un petit peu. Alors excuse-moi, mais on a été vachement plus divisé dans notre histoire. D'abord, on va bientôt fêter l'Akba Omer. Fut un temps où on se massacrait les uns les autres. On n'était pas seulement dans la rue à dire « Oh là là, c'est pas bien ce que tu fais, machin, c'est la fin de la démocratie. » Il y a des gens qui se sont massacrés les uns les autres dans l'histoire du peuple juif parce qu'on n'était pas d'accord les uns avec les autres. On n'en est pas là, Baruch HaShem. Maintenant, oui, bien sûr qu'on vit une époque de construction. J'allais même dire de reconstruction. Parce que, tu crois quoi ? Quand tu es tout seul à la maison, c'est facile de gérer selon ta propre volonté. Puisqu'il n'y a personne d'autre qui a une autre volonté. Quand tu construis à deux, c'est déjà plus compliqué. Quand en plus tu as des enfants, c'est plus compliqué. Quand les enfants deviennent adolescents, c'est encore plus compliqué. Et imagine, tu vis en colocation avec cette personne, c'est encore plus compliqué. Est-ce que ça veut dire que l'idéal serait donc de tuer les 6 autres pour rester encore tout seul et ramener le calme? Il n'y a rien de plus ordonné et de plus calme qu'un cimetière. C'est parfait, tout est bien, on sait où trouver les gens, il n'y a personne qui bronche, l'association de copropriété, elle est très contente, tout va bien. Am Israël revient sur sa terre, et pas tout seul, c'est pas un bloc, c'est des communautés qui ont été dispersées dans le monde entier. Tu sais ce que c'est le Mashiach dans la Torah ? Si on parle de Mashiach tout à l'heure, mais peut-être que ce serait bien de donner les sources toraniques. Ce que le Rambam nous dit dans les lois sur le Mashiach, celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, ce n'est pas seulement dans les prophètes qu'il n'a pas la confiance, mais il remet en cause la Torah de Moshe. Comme si le Mashiach était marqué dans la Torah de Moshe. Et il dit « Shenehemar », comme il est dit, et il va citer les versets de la paracha de Nitzavim à la fin du livre de Dvarim. Et c'est quoi les versets qui nous dit ? Kibbutz Galouyot. Les versets qui ne parlent pas du Mashiach, mais qui parlent qu'Akadosh Baruch Hu va ramener le peuple juif en terre d'Israël. C'est quoi le messianisme ? C'est l'Alia. Oui, mais attends 2 secondes. Les gens, ils ne sont pas venus d'un groupe. Les gens qui sont venus du Yémen, les gens qui sont venus d'Europe de l'Est, les gens qui sont venus d'Europe occidentale, les gens qui sont venus du Maghreb, d'Afrique du Nord, les gens qui sont... ils sont venus avec leur bagage, avec 1500 ans, 2000 ans de culture, de tradition, de minagim. Mais tu crois quoi ? Que ça va se... L'union, elle va se faire en 2 secondes ? Maintenant, c'est évident que ceux qui sont, entre guillemets, arrivés en premier, ou ceux qui ont pris les rênes de la construction de l'État d'Israël, aujourd'hui, ils voient qu'ils sont plus majoritaires. Aujourd'hui, ils voient qu'il y a une autre communauté qui est en train d'arriver et qui dit « Attendez 2 secondes, on devient les plus nombreux. Donc, on veut avoir notre mot à dire. Ah, » c'est difficile. Donc, il y a plein de choses qui sont en ébullition. Mais c'est bien, c'est normal. Ça montre qu'il y a Kibbutz Galouyot. On n'a jamais été aussi nombreux en Israël. Donc forcément que...
Mais des disputes. Mais le Mashiach doit être quand même accepté par tout le monde. On l'a dit au tout début du cours.
Mais encore une fois, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a dit au tout début du cours ? Que le Mashiach, c'est d'abord et avant tout un chef politique. Comment il va être mis en tant que monsieur Mashiach ? Ça va se passer comment ? Est-ce que ça va se passer pouf ? Il va faire une annonce sur Internet, « Salut, je suis Mashiach, acceptez-moi. » Ou alors, est-ce qu'il va se présenter dans un parti politique ? Il va d'abord conquérir son parti politique, et puis après, il va se présenter aux élections, et il va être élu Premier ministre. Et en tant que Premier ministre, eh bien, il va réussir à unir le... J'en sais rien. Me dit le Rambam, personne ne sait comment ça va se passer jusqu'à ce que ça se passe. Quand ça se passera, on verra. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il doit unir, mais ne crois pas que ça va être magique. Le Mashiach, son rôle, le chef du peuple juif, chef politique du peuple juif, c'est d'être capable de gouverner, d'être capable de gérer son peuple. Alors, je te dis, le Rambam nous a fait une liste de choses qu'il devait faire. On a dit qu'il devait être respectueux de la Torah, qu'il devait venir de David, d'accord, très bien. Mais il doit également faire pas mal d'autres choses. C'est-à-dire qu'il doit pousser vers la Torah. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que, en tant que chef politique du peuple juif, que le peuple juif, il respecte la Torah. Est-ce que ça veut dire que je vais mettre... des gardiens de la tzniout dans les rues ? Absolument pas.
Ça s'est vu ailleurs.
Ah, ça s'est vu ailleurs. Absolument pas. Ça veut dire simplement que je vais essayer de faire passer par des voies démocratiques des lois qui vont avancer vers la Torah. Et des fois, il y aura des lois qui semblent être complètement en inverse. Ça a l'air. C'est Yerida, Letzorech Aliyah. C'est parce que tout avancer vers quelque chose de fort amène une force contradictoire. Et plus l'avancée est grande, et plus la force contradictoire, elle essaye d'être grande, pour essayer de garder une espèce d'équilibre. Donc, on avance deux pas, après on recule d'un pas, et je te rappelle que lorsqu'on a créé l'État d'Israël, un monsieur comme David Ben-Gurion, qui lui aussi était Prinat Macher Ben Yosef, un monsieur comme David Ben-Gurion, qui n'est pas religieux, qui ne suit pas la Torah, qui ne peut donc pas être
Macher
Ben David.
Même, il aurait pu l'être après.
Il aurait pu l'être après, il aurait pu faire, tu vois, pas de problème. Même quand on regarde le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, qui va, il y a une longue sougia là-bas qui nous donne les noms du Mashiach. Plein de noms. Bah, un de ces noms, c'est David Acher. Un autre David. Seulement, on sait dans le Talmud qu'est-ce que ça veut dire Acher. C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté la Torah. C'est-à-dire que Dieu, il va nous mettre en place un David qui a rejeté la Torah. Bon, bah, on a eu un David comme ça qui a fait quelque chose d'important pour le peuple juif. Hein? Donc David Ben-Gurion, il n'est pas religieux. Et pourtant, il va mettre en place les lois de base qui vont dire que bah, le jour chômé en Israël, c'est le Shabbat. Que dans toutes les institutions gouvernementales, on va manger kasher, sous la pression du Rav Goren. Et que l'armée, il n'y en aura qu'une seule. Et qu'elle sera kasher et qu'elle fera Shabbat.
C'est trop fort.
T'as vu, t'as vu ah donc voilà, c'est possible cette histoire. Ça veut dire que c'est une des choses qu'il doit faire, aller vers le fait que l'âme Israël, il fait la Torah. Après, est-ce qu'il va aller dans chaque maison pour vérifier que chaque personne, elle fait Shabbat? Bien sûr que non, à aucun moment. Maintenant, il doit faire d'autres choses, comme tu l'as dit, les guerres d'Israël. D'accord. Il va faire les guerres d'Israël, ça doit être un chef de guerre, bien sûr, s'il y a besoin. Si on peut arriver à avoir des accords sans faire la guerre, bah, tov umanaim. Mais s'il faut, il faut. Et après, eh bien, on va nous dire, et il doit les kabetz nitrei Israël, de ramener les exilés. Est-ce que c'est lui qui va chercher les gens? Non, mais il a une politique d'Alia. Une politique dans le Misrad Atfutsot, Misrad Aklita, de faire venir les gens. Et à un moment donné, il doit aussi construire le Beth Amikdash.
C'est la dernière étape?
C'est la dernière étape à laquelle, si jamais il a réussi, on va dire Hu Mashiach Bevadai.
Il peut avoir fait tout avant
et mourir.
On n'est pas sûr.
Mourir.
Et tant pis.
Et donc si, nous dit le Rambam, s'il fait des trucs, mais que finalement il ne termine pas, bon, bah, il aurait été comme tous les rois cachers qu'on a eu dans le peuple juif, et on lui mettra une place de kavod, et on dira, ah, c'est un grand, grand, grand sadique, et il a. Mais c'est pas le Mashiach. Et il est possible que le Mashiach, finalement, il arrive et qu'il fasse juste le dernier truc. C'est comme Bessède, ça marche aussi.
Mais alors, le Mashiach, c'est quelqu'un de physique, d'humain.
Tout à fait.
Donc, il y aura un avant et un après Mashiach.
Tout à fait.
Donc, à un moment donné, le Mashiach va mourir.
Et il y aura son fils.
Et il y aura son fils. Donc, ça va être une. C'est un roi qui.
Alors, c'est un roi. Est-ce que ça va être son fils biologique? Est-ce que ça va être son successeur spirituel? Est-ce que. On n'en sait rien vraiment.
Est-ce qu'on va pas retourner sur tout ce qui s'est passé déjà dans le monde où il lit lui, mais Lot, il est son fils légitime et du coup, il va faire la guerre à lui et du coup, on repart. C'est-à-dire, est-ce que ça amène à une fin? Tout ça, c'est, j'allais dire une fin. Il faut qu'on en parle un petit peu parce que il y a un moment donné, on va s'arrêter de se faire la guerre ou on va arrêter tout ça.
Ouais.
Ça veut dire qu'on va être plus moraux.
Ouais.
Ça veut dire qu'on n'aura plus envie de se faire la guerre les uns les autres.
On n'aura plus envie parce qu'on aura envie de faire le bien. Et on aura envie le bien commun et le bien collectif. Et donc, il y a un moment donné, pour l'instant, les gens ils pensent que pour avoir du bien, il faut s'emparer des ressources de l'autre. Mais on n'est pas à l'abri d'un réveil de l'humanité, de dire que mais on a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien tous ensemble. Qu'il y a un concept que nos sages ils ont déjà amené depuis très longtemps dans la Mishnah, que « Zé né né, ve zé lo chaser ». Aujourd'hui, on est dans le style « Sheli, Sheli, Shelcha, Sheli ». Ça, c'est « Midat Zdom », c'est « Je veux tout pour moi ». Il y a une « Mida » qui est « Benoni, c'est « Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha ». Genre, je ne m'occupe pas de tes affaires, ne t'occupe pas des miennes. Mais il y a aussi « Sheli, Shelcha ». Mais « Shelcha, Shelcha ». C'est-à-dire, moi, j'ai un truc bien à te donner, je te le donne. Après, que toi, tu me donnes ou pas, c'est ton problème. Ce n'est pas à moi de te prendre. Et à partir du moment où tu sais que tu as quelque chose de bien qui peut amener le bien aux autres et que ça ne va pas t'enlever à toi, il n'y a pas de raison. « Kiner Hashem Nishmat Adam ». Une bougie, tu prends une autre bougie et tu l'allumes de la bougie déjà allumée, ça n'enlève pas la première flamme. Ça continue. Donc, oui, l'humanité va arriver à ce stade où on va comprendre qu'en fait, on est interdépendant et ce qui est bien pour moi est forcément bien pour toi aussi. Donc, on va vouloir se faire du bien mutuellement. Il n'y a pas de raison de qu'on n'y arrive pas. Dans la science-fiction, ils sont déjà arrivés. Moi, j'ai grandi, grâce à mon papa, avec des films et des séries de science-fiction. Star Trek, pour ne pas la citer. où il n'y a plus d'argent dans cette série. Il n'y a plus d'argent. Parce qu'en fait, non, les gens, ça ne sert à rien, l'argent. Il y a des gens qui produisent quelque chose qui va profiter à tout le monde. D'autres, ils produisent d'autres choses. D'autres, ils produisent un savoir. D'autres, ils produisent un truc. Non, on grandit.
C'est le communisme.
C'est même pas le communisme. C'est la conscience que ce que moi, je peux apporter dans le monde, je l'apporte. Et ce que d'autres peuvent apporter, ils l'apportent.
Ça, j'ai hyper optimiste. Non, c'est...
Bah, c'est le but, non ?
Donc, l'objet, c'est ça le but.
Oui, c'est ça le but. C'est ça le but. Allez, quand le prophète, il va nous dire que les épées seront transformées en charrues, on va pas se faire la guerre, mais on va cultiver la terre ensemble. C'est ça le but.
Mais on va y revenir.
Entre parenthèses, on est vachement plus proche de cette réalité utopique dont tu parles, ou dont je parle, mais toi, tu dis que c'est une utopie. Moi, je dis on est vachement plus proche qu'il y a 100 ans, qu'il y a 1000 ans. Il y a encore des guerres. Bien sûr, je suis pas dans le monde des bisounours, mais il y a quand même pas mal de choses qui marchent.
Pire que des guerres, il y a des gens mauvais.
Il y a des gens mauvais, mais il y a aussi plein de gens bien.
Et en fait, ce Mashiach va dévoiler Dieu sur ce monde. Et en fait, les gens vont comprendre qu'ils n'ont plus d'intérêt à être mauvais.
Nahon. Il y a une vraie prise de conscience qui se met en place que bah, quand tu influes le bien, bah, ça fait du bien. Encore une fois, on n'a rien inventé. Hein. Tu sais, Pirkei Avot, ils l'ont déjà dit. Hein. Mitzvah goreret mitzvah, ve'avera goreret avera. Quand les gens ils voient qu'ils font du bien et que ça amène du bien, bah, ils ont envie de faire du bien. Pas shoot.
On va y revenir sur le futur parce que je pense que ça intéresse énormément de monde. Mais j'ai besoin du watch time, que les gens aillent jusqu'au bout de la
très
vidéo.
Bien.
Donc on va y revenir. Mais avant, moi j'ai une autre question. Est-ce que le Mashiach, ça c'est une question qui va être polémique.
Ah !
Mais moi j'aime bien.
C'est vrai que jusqu'à maintenant
on a été très gentils. Est-ce que le Mashiach peut être une femme ? Peut-être une femme, peut-être un goy, peut-être un guerre, peut-être quelqu'un qui s'est converti. Quel est. Être un homme politique, ok, mais aujourd'hui, être un homme politique en Israël, on peut être arabe, on peut être juif, on peut être chrétien, on peut être une femme, on peut, etc. Quel sera son genre
Ah, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler de genre. Hein,
non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une question polémique, parce que même la question, elle est compliquée. Déjà.
Alors, regarde. Bon, d'abord, on va faire du plus simple au plus compliqué. Au niveau du plus simple, est-ce qu'il peut être non-juif ? Non. Pourquoi il ne peut pas être non-juif ? Parce que nous dit la Torah, « Mikerev achecha ». Il doit venir de tes frères. Donc, tu ne peux pas être le dirigeant du peuple juif quand tu n'es pas juif. Ça, c'est la première chose. Donc, non-juif, non, il ne peut pas être le Mashiach. Il peut être très bien, encore une fois, il peut avoir une grande place, même au sein du gouvernement du Mashiach, il peut y avoir des non-juifs. Mais il ne peut pas être lui le dirigeant. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir, chas v'shalom, un non-juif qui serait à la tête de l'État d'Israël. Imaginons un cas où demain, le plus grand parti du pays met à sa tête un non-juif et c'est lui qui devient le premier ministre de l'État d'Israël. Ça n'enlèvera pas la sainteté de l'État d'Israël. On n'arrêtera pas de faire Yom HaTzmaout.
Je pense que c'est interdit dans la loi israélienne.
J'ai pas dit que c'est...
Non, mais je pense que
c'est... Ah, dans la loi israélienne, je crois pas que ce soit interdit. Mais je suis pas Mishpetan. mais enfin, bon, je crois pas que c'est interdit. Mais ça ne change... Mais il pourra pas être le Mashiach. OK ? Maintenant, est-ce qu'il peut être un guerre ?
Bah, technique,
est-ce qu'il peut être un converti ? Techniquement, oui et non. Pourquoi je dis oui et non ? Bah parce que si on a dit que le Mashiach devait venir de la dynastie de David, alors il ne peut pas être un converti, puisqu'il doit être de père en fils, lié à la tribu de Yehuda, à la tribu de David.
Par son père ou...
Par son père ? C'est-à-dire que c'est sa mère qui s'est convertie.
C'est ça.
Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Encore une fois, il n'y a rien qui est très, très, très clair là-dessus.
C'était volontaire. C'est dans le flou.
Bien sûr. De toute façon, tout ce qui est du domaine de l'avenir, je répète les paroles du Rambam parce qu'elles sont tellement limpides. Ne te projette pas. On verra. Pourquoi ? Parce qu'on t'a dit ça va être comme ça. Prends l'exemple de Yirmiyahu Hanavi, prophète Jérémie, qui te dit on part en exil, dans 70 ans, on revient. Et il y a 7 façons de compter les 70 ans.
Ouais.
Ah, on verra, il fallait commencer là. Non, mais t'inquiète, il fallait commencer là. On verra. Oui, comme les au final.
En Égypte,
exactement, comme les 400 ans en Égypte, on s'est arrangé la naissance de Yitzhak, machin. Ça, on verra bien. Pareil pour une femme. Est-ce que ça peut être une femme ? A priori, il y a marqué Som Tassim Alecham Meler. Donc nos sages vont nous dire Meler Velo Malka. Ça, on verra.
C'est pas. On verra.
On verra. A priori, non. Mais on verra. Et si jamais c'est une femme qui remplit tous les critères?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Encore une fois, je te dis, a priori, non. Mais voilà, je suis pas, j'ai pas à la place de Kadosh Baruch Hu.
J'aimerais prendre une minute pour parler un petit peu du Beit HaMikdash.
Oh!
Parce que c'est la maison de Dieu. Le but du Mashiach, c'est entre guillemets de ramener Dieu sur terre, de, en tout cas de le dévoiler, de le laisser passer plus, je sais, chacun selon ses termes. Je sors d'une émission avec le Rav Ben Arouche, donc je suis très ouvert à toute suggestion. Le Mashiach doit construire le Beit HaMikdash, mais le Beit HaMikdash ne doit pas être dirigé par le Mashiach.
Du tout.
Alors, quel est le rôle du Mashiach et quel est le rôle du Beit HaMikdash?
Mais encore une fois, le Beit HaMikdash, c'est pas le Mashiach qui construit le Beit HaMikdash. C'est pour qu'il devienne Mashiach officiel, il faut qu'il ait construit le Beit HaMikdash. Donc tant qu'il n'a pas construit le Beit HaMikdash, il n'est pas encore Mashiach. Donc on ne peut pas dire qu'il faut attendre le Mashiach pour construire le Beit HaMikdash. C'est déjà une erreur de base, de compréhension de la halakha. Tant qu'il n'a pas construit le Beit HaMikdash, il n'est pas Mashiach. D'accord ? Maintenant, le Beit HaMikdash, c'est l'endroit où HaKadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler. C'est par là que ça passe. Qui est le patron au Beit HaMikdash ? Le Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'il y a une grande dispute dans le Talmud. Qui gagne ? Le roi d'Israël ou le Kohen Gadol ? C'est le roi qui gagne. Si les deux se rencontrent, qui se prosterne devant qui ? Qui fait la révérence à qui ? Parce que lui, il est roi. Et nous disent dans ça, le Kohen Gadol, il est roi dans son royaume à lui, dans son Vatican. Mm-hmm. Il y a le Vatican pour les chrétiens, il y a le Vatican, c'est le Beit HaMikdash. À l'intérieur du Beit HaMikdash, c'est le Kohen Gadol, le patron. Il a une couronne d'ailleurs sur la tête, comme le roi. C'est-à-dire, donc, il y a deux dimensions complètement différentes. À l'intérieur du Beit HaMikdash, c'est le Kohen Gadol qui gère. Le roi, quel est son rôle au sein du Beit HaMikdash ? De voir comment la source de vie peut l'aider à diriger le peuple juif. Et le meilleur exemple, c'est que le roi peut, à tout moment, lorsqu'il a besoin d'être éclairé pour la direction du peuple, venir voir le Kohen Gadol et lui dire « J'ai besoin de poser une question à Dieu. » Et là, ils vont ouvrir le rideau qui le sépare du Kodesh à Kodashim, mais même si on n'est pas Kippour, ils vont poser la question au Urim Vetumim. Tu sais, le Kohen Gadol, il avait dans son pectoral des pierres avec des lettres. Et donc, le roi et le Kohen Gadol, ensemble, vont poser la question et Kadosh Baruch Hu donne la réponse. Donc, si tu veux, le Kohen Gadol, c'est lui le patron du Beit HaMikdash, pour savoir comment il faut faire passer, laisser passer le dévoilement divin. Et le roi, il vient puiser au Beit HaMikdash la force pour gérer son peuple.
On a, entre guillemets, désigné, accusé énormément de gens dans la Torah et dans l'histoire moderne d'être le Mashiach. Je pense à Shabbat HaTzvi, il y en a certains, je pense au Rabbi. Et je pense aussi dans la Torah, où on a cité Rabbi Akiva, on a cité plein de gens comme ça pour le Mashiach. En fait, tous ces gens-là ne sont pas le Mashiach parce qu'ils n'ont pas fait le Beit HaMikdash.
Pas que, oulala.
Non, alors est-ce qu'on peut passer
D'abord, le premier qui aurait pu être le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu.
Bon, mais Mala Asot, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est un problème pour ce qui est de ramener les exilés en terre d'Israël. Donc, Mala Asot, Moshe, il n'a pas réussi à finir le boulot. Entre parenthèses, c'était la tzipia. C'était la volonté de tout le peuple juif lorsqu'ils lui ont demandé de leur donner de la viande. Alors qu'il y avait la manne divine qui venait, les Bnei Israël ont demandé de la viande à Moshe et nous explique le Rav Kook que c'était une volonté du peuple juif de dire à Moshe « Deviens le Mashiach ». Et Moshe, il a dit « Je peux pas. Je peux pas. J'y arriverai pas. Parce que moi, il me manque une qualité pour être le Mashiach. Je suis trop humble. Je n'arrive pas à gérer la chutzpah du peuple juif. » Ça, j'arrive pas. Et le Mashiach, il a besoin. Donc, ça ne sera pas moi. C'est-à-dire ? Mais effectivement, il y a eu d'autres personnes, pas qui ont postulé au rang du Mashiach, mais qu'on a peut-être, à tort, mis sur un piédestal. Alors, Rabbi Akiva, je t'ai dit non. Rabbi Akiva, lui, à aucun moment, il se met lui. Mais il pense que Bar Korva, qui n'est pas du tout un rabbin, d'ailleurs, qui va avoir un problème aussi au niveau de sa relation avec les mitzvot pendant la guerre contre les Romains, mais Rabbi Akiva, il dit... Bar Korva, ce qu'il essaye de faire, c'est de ramener la souveraineté au peuple juif. C'est ça que j'attends du Mashiach. Bon, finalement, il a été tué, Bar Korva, ça n'a pas été lui. Shabtai Tzvi, tu faisais état de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, il n'a pas été le Mashiach, pas parce qu'il n'a pas construit le Beit HaMikdash, parce que c'est un rachat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, certes, a utilisé le lexicon, le langage messianique, en disant « Je vais vous ramener à Jérusalem, on va reconstruire le temple, ça va être fantastique, machin. » Donc, ce qu'on attendait du Mashiach, seulement, il s'est avéré être un personnage qui, en fait, avait énormément de pulsions personnelles, particulièrement dans le domaine des relations hommes et femmes. Et donc, il a dit, puisque Dieu est partout, alors il faut pouvoir le dévoiler également partout et également donc dans les mauvaises actions pour se permettre des mauvaises actions. Et rajoute à ça le fait que quand il arrive chez le sultan turc de l'Empire ottoman et que le sultan lui dit « Arrête tes bêtises, ou tu te convertis à l'islam ou je te tue » et qu'il se convertit à l'islam, c'est sûr que ça en jette un sacré coup pour le Mashiach. Et puis, tu nous amènes chez le rabbi de Lubavitch. Mais je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais il y en a un que tu as sauté dans l'histoire. C'est-à-dire que tu n'as pas de rabbi Akiva. Tu as parlé de Shabtai Tzvi, tu as parlé du rabbi. Celui Hertel. Qui nous... Hertel.
Binyamin Netanyahou. Moi, j'en ai plein. Hein,
Bibi Meller Israël.
J'en ai plein.
Ouais. Non, mais tu as oublié celui qui a fait le plus de dégâts. Tu as entendu parler de Jésus?
Ah oui, eh oui, bien
hein
sûr.
En termes de juif qui est parti en cacahuète, ça se pose là. Hein. Donc, quand on parle de toutes ces réalités-là, encore une fois, c'est qu'on n'a rien compris au Mashiach. C'est qu'on n'a rien compris au Mashiach. Jésus, quand il vient et qu'il dit, tu connais cette fameuse phrase, il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est de lui. Parce qu'on lui a demandé, on a posé une question, on lui a dit, est-ce qu'on doit payer nos impôts à Rome? Il dit, donnez-moi un sesterce. Sur le sesterce, il y a l'effigie de César. Alors, il dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. On sépare l'Église et l'État. C'est-à-dire que dans l'idéologie qui va créer le christianisme, il n'y a pas de relation entre le spirituel et le matériel, entre le monde d'en haut, le monde d'ici. C'est pas ça, le Mashiach version juif. Du tout. C'est-à-dire, donc, on met de côté. Et là, tu me parles de Herzl. Herzl, on a déjà dit, on a répondu. Mashiach, Ben Yosef. Herzl a vécu 44 ans. Disons qu'à 45 ans, il décide de faire teshuva. Il avait déjà la barbe. Mais il décide de mettre une kippa au-dessus. Il décide de rentrer dans la Torah. Tu sais, Rabbi Akiva, il a commencé à étudier, il avait 40 ans. Donc, Herzl aurait pu commencer à étudier à 45 ans. Et il serait devenu un Talmid Chacham, un tzaddik extraordinaire. L'Erteda. Mais bon, pour l'instant, que ma chère Ben Yosef, pas ma chère Ben David. Herzl était séfarade. Peut-être qu'il nous aurait montré quelque chose de fort. Karl Marx, cette volonté de réunir tout le monde, d'arrêter avec la dictature de la caste dirigeante et enfin faire la révolution prolétaire. Karl Marx est un descendant du Maharal de Prague, qui lui-même est un descendant de Rashi, qui est un descendant de David Ameller. Karl Marx est un descendant de David Ameller. Ça aurait pu. Mais ça n'a pas été, parce qu'entre autres, Lo Geba Torah et David Aviv, il n'est pas dedans. Tu parles du rabbi de Lubavitch. Alors, est-ce qu'on va se fâcher avec toute la communauté Chabad à travers le monde?
Non. Toute la communauté Chabad ne pense pas que le rabbi de Lubavitch est le Mashiach.
Bon, ça, c'est encore un débat. mais on va dire comme ça. Le rabbi de Lubavitch, je vais te dire ce que j'en pense, est certainement l'un des plus grands maîtres de la Torah et du judaïsme, et un des plus grands tzaddiks que nous avons eu le mérite d'avoir depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, sans aucun doute. Je pense qu'on peut très largement le mettre dans la liste, si on devait faire une liste, je sais pas moi, des 50 plus grands personnages juifs depuis Abraham, le rabbi serait dedans sans aucun doute. Et quand on parle des 100 dernières années, il est dans les 10 personnages les plus importants, sans aucun doute. Le rabbi Lubavitch, c'est au niveau de la Torah, de son enseignement et de l'influence qu'il va avoir, c'est incommensurable. Ceci étant dit, ça n'a absolument rien à voir avec le Mashiach. Ça œuvre évidemment dans ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, dans les temps messianiques, mais ça n'a rien à voir avec le Mashiach. Et je vais te donner un exemple tout simple. Mes enfants, quand ils étaient jeunes, ils allaient tous les étés à Tzivot HaShem, dans les colonies de Chabad. Ma femme avait une famille Chabad, tout ça. Et donc mes enfants, Tzivot HaShem. Et il y a une année où c'était la guerre en Israël. C'était la guerre en Israël et moi j'étais en Milouim, j'étais à la guerre. Et mon fils, il était Tzivot HaShem, il avait son t-shirt Tzivot HaShem, il avait son drapeau et tout, tout va bien. Et donc le Madrir, le Rav, je ne sais pas ce qui c'était là-bas, et ils ont fait un truc, ouais, voilà, vous savez que c'est la guerre, et vous êtes les Chayalim d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est pour ça qu'on va faire les psukim, et on va. Et mon fils, il se lève, il dit, Lo Nachon, c'est pas vrai. Mon papa, Achav, c'est un soldat d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis un enfant avec un drapeau. Quelle clairvoyance.
Mais les enfants.
Non, mais ça veut dire.
Coup de génie.
Quand, parce que quand on va te dire. Non, mais le Rabbi Lubavitch, il y a marqué dans le Rambam qu'il doit faire les guerres d'Israël. Il a créé Tzivot Hashem. Tzivot Hashem, c'est un mouvement de jeunesse. C'est sympathique. C'est les enfants qui prennent des drapeaux et qui vont faire du tambour à l'Akba Omer. Mes enfants, ils seront. Encore aujourd'hui. C'est Bessader Gamour. Mais c'est pas le Mashiach. Soyez sérieux, 5 minutes. Le Rabbi. Ah, mais le Rabbi, qu'est-ce que tu racontes? Il avait des contacts avec tous les hommes politiques. Oui, mais c'est normal. Un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham. C'est normal que les gens influents, les dirigeants, ils essayent de prendre des conseils chez les tzaddikim et les chachamim.
Un peu comme un Kohen Gadol.
Mais fait. Exactement. C'est-à-dire que quand le roi vient voir le Kohen Gadol, c'est normal. Donc c'est tout à fait normal que Bibi, qui n'est pas le Mashiach, mais c'est normal que Bibi, il vienne voir le Rabbi.
Pas encore.
On arrivera à Bibi. Mais si tu veux, c'est normal que les hommes politiques viennent voir le Rabbi. Ça ne veut pas dire que le Rabbi est le Mashiach, ça veut dire que c'est un Talmid Chacham, que c'est un sage, un des plus grands. Tu vas me dire, non, mais il descend de David. Ça, c'est vrai. Bon, ben, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Marx et le Rabbi Lubavitch, ils avaient des points
communs. Oui, bien sûr. Des points communs. Non, mais familiaux.
Familiaux.
C'est-à-dire. Alors, je ne sais pas à combien de distance, hein, mais Nahon. Maintenant,
est-ce que chacun met pas dans sa famille un petit peu
moi j'ai été des trucs, je sais pas. Je sais que mon maître, le Rav Cherki, il descend aussi de Rashi. Alors, je sais pas
donc, si moi je reprends, soit je fais les calculs, hein. Donc Rav Cherki a des familiaux avec Marc. Ça même barbe.
Bon, je sais pas, voilà, je sais pas d'où ça vient exactement. Mais enfin bon, donc tu comprends, quand on te dit le Rabbi, c'est le Mashiach. Bon, d'abord, il a jamais dit qu'il était le Mashiach. Les gens ont fait dire non mais c'est
mais
sûr
il a jamais dit que c'est pas lui,
il a jamais dit que c'est pas lui, mais ça adore. Non, de mon point de vue, d'après ce qui a marqué dans le Rambam, le Rabbi n'a pas fait la chose de base qu'il faut faire pour être le Mashiach, à savoir c'était pas un dirigeant politique, point. C'était un grand tzaddik, un grand rabbin. Oui, bien sûr que il faisait la Torah et qu'il a influencé tout le peuple juif à les renforcer dans la Torah, c'est nachon, mais comme tous les rabbins. Alors peut-être que lui, il a mieux réussi que d'autres, dû à sa grandeur, avec plaisir, mais c'est un rabbin. Et c'est très bien que ce soit un rabbin, et c'est très dangereux que le rabbin, il devienne le chef politique.
Oui, parce que c'est pas un politicien.
Parce qu'il sait pas comment on gère la vie d'un peuple. Il sait comment on gère la vie du Beit HaMidrash. On a déjà eu dans l'histoire un cas de rabbin qui était roi. C'était terrible. C'était Chizkiyahu Melech Yehuda. Le roi Chizkiyahu Ézéchias, il était tadik, il était roi, et tu sais ce qu'il a fait? Il a mis tous les budgets de l'État pour la Torah. Il a fait ordonner par loi que tout le monde doit aller au Beit HaMidrash. Et il avait mis une épée à l'entrée de chaque Beit HaMidrash pour dire, celui qui ne vient pas étudier, yidaker bacherev. Sauf que, et on te dit, il n'y avait pas un enfant dans tout le pays de Dan à Be'er Sheva qui ne connaissait pas toutes les lois de pureté et d'impureté. Quand la cabote, c'est tadik. Mais il n'y avait rien à manger. Parce que les champs étaient en friche, puisque personne n'allait bosser dans les champs. C'est un problème. C'est-à-dire, donc, lorsque le rabbin prend le contrôle politique, c'est un vrai problème.
Il faut qu'on fasse une émission. Alors, politique et Torah. Comment on peut arriver à,
comme
à
dit,
gérer les deux, etc.
Politique et Torah.
Mais rentrer un petit peu plus dans le détail, ben je pense qu'il y a...
Il faut. Mais tu te rappelles, lorsque Dieu a voulu sortir le peuple d'Égypte, il a dit à Moshe, allez, c'est toi que j'envoie. Et Moshe, il a dit, non, shlach na beyat tishlach. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Rashi, il dit, envoie Aaron. Aaron, c'est mieux, il a une barbe, il est bien, c'est un tzaddik. Il dit, non, pas du tout. Vaïcharaf Hashem ben Moshe, il s'est énervé contre lui. Il a dit, Aaron, achicha, Lévi. Ton frère, c'est un rabbin, c'est un Lévi. Yadati, ki daber, yedaber, hu.
Il va juste parler.
Il va parler, il va faire des grands livres de Torah, ce sera magnifique. Mais toi, t'as grandi chez Pharaon. Toi, t'as fait Sciences Po Pharaon. Donc toi, tu sais comment on gère un pays. Et de mal à la sorte. Donc, est-ce que le Rabbi, c'était le Mashiach? Non, c'était pas le Mashiach. Est-ce qu'on aura le mérite d'étudier les enseignements du Rabbi pour nous aider à mieux intégrer le Mashiach? Certainement, j'espère.
Et Bibi Netanyahu?
Et Bibi Netanyahu quoi?
Il est pas dans la Torah.
Il est le chef politique du peuple juif, pour l'instant. C'est-à-dire mais est-ce que ça suffit? On a dit, c'est un point de départ fondamental. Mais il faut faire d'autres choses aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire, donc, s'il fait, Matovu Manaim. On va dire comme ça. Le rôle qu'endosse aujourd'hui Benjamin Binyamin Netanyahu ressemble beaucoup plus au rôle du Mashiach que le rôle qu'endossait le Rabbi Lubavitch. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Mashiach. Il a encore du boulot.
Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Jérusalem, qui est, en explication simple, c'est des gens qui se prennent pour le Mashiach, qui pensent que c'est eux le Mashiach, qui ont été choisis par Dieu. Comment ça se fait qu'il y ait une volonté d'être le Mashiach? C'est-à-dire que moi, je vois même, bon, j'ai pas des amis qui sont dans le syndrome de Mashiach, mais j'ai énormément d'amis qui veulent être le prochain Rosh Hashanah, qui veulent faire la même chose. Est-ce que ça fait partie du peuple juif de vouloir être toujours dans le... Je sais pas comment on peut le dire. D'avoir un ego comme ça...
Est-ce que ce serait pas le syndrome de la mère juive?
C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça. Si on t'a dit depuis ton plus jeune âge que t'étais le Mashiach, alors forcément, à un moment donné, tu vas te mettre à le croire. Donc, le syndrome de la mère juive. Écoute, il y a une volonté dans le peuple juif, Vadaï, c'est évident, à l'excellence. Pourquoi ? Ki banim atem la Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on a envie de lui faire plaisir, on a envie d'être au top. Pendant des années, être au top, ça voulait dire être au top dans l'étude. Comme on a retrouvé une dimension concrète et nationale, alors être au top, maintenant, ça veut dire aussi, dans les études, pas que de Kodesh, dans la réussite sociale, dans la réussite politique, dans la réussite sportive, dans tous les domaines. Je pense que la volonté qu'on peut avoir aujourd'hui de réussir, dans tous les domaines qu'on entreprend, ça fait partie de la dimension messianique. Ça fait partie de cette volonté de « archavat adat ». Achavat adat, c'est être plus grand. Être plus grand. On ne peut pas dévoiler Dieu si on est petit, recroquevillé sur nous-mêmes et toujours en mode non, c'est pas moi, je vais pas faire ça. Alors, faut aussi faire preuve d'humilité. C'est parce que tu veux réussir et que tu réussis que tu penses que t'es le meilleur et que tu penses que t'as rien à apprendre de personne. Donc, il y a l'humilité à avoir, mais cette volonté de réussir, je pense qu'elle est, très juive, elle est très bonne, elle est très vraie. Le fait qu'il y a des gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux, c'est un problème. Tu veux faire?
Alors, j'aimerais conclure, parce que c'est déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Oula. Et j'aimerais conclure sur ce qu'on avait dit un petit peu vers le milieu. On a dit que l'objectif de tout ça, de tout ce travail depuis plus de 2000 ans, depuis la sortie d'Égypte, depuis même la création du monde, c'est que le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'ego. Est-ce que c'est... Mais est-ce qu'on continuera à prendre le bus? Est-ce qu'on continuera à aller travailler? Est-ce qu'on continuera à se gronder avec sa femme? Est-ce qu'on continuera à
éduquer nos enfants? Ah non, on a dit, il n'y aura plus
d'égo. Oui, mais... est-ce qu'on va vivre comme des prêtres, quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va arriver à un moment où on va être un peu dans la lutte?
On va l'éviter,
ça,
on va l'éviter.
Non, mais...
Nous dit le Rambam, dans les lois sur le Mashiach. Nous dit le Rambam très simplement. Tu te rappelles quand j'ai dit, ne pense pas que le Mashiach... Ne pense pas, que lorsque va venir les temps messianiques, yechidush baolam, et que le monde y va changer. Et là, olam keminago noeg. Le monde y continue, normal. Le monde y continue. Tu vas continuer à aller au travail, tu vas continuer à aller acheter ce que tu as besoin d'acheter au super, tu vas continuer...
Avoir des problèmes d'argent, avoir de chercher des appartements chers.
Tu vas peut-être arrêter de chercher un appartement trop cher pour toi, parce que tu comprendras que ce que tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de ça. C'est-à-dire que le monde, il évolue, il n'arrêtera pas d'évoluer. Mais c'est pas magique. Le monde, il va évoluer. Par exemple, est-ce que tu me dis on va l'éviter? Ouais, c'est très possible que dans 20 ans, les voitures, elles volent. Mais ça ne sera pas de la magie.
On dit ça il y a 20 ans. Hein,
mais... Nahan, mais j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la technologie, elle va continuer à évoluer. Et le monde, il va évoluer. La médecine, elle va continuer à évoluer. On guérira de plus en plus de maladies, si bien qu'un jour, on arrivera. Bezrat Hashem, encore une fois, avec l'aide uniquement de Dieu. On arrivera à battre la maladie. Et peut-être même qu'on arrivera à battre la mort. L'Arteda, c'est peut-être ça, Triatametim. Que d'abord, on arrive. Nos sages nous disent que Bichlal, le shlav, l'étape avant la résurrection des morts, c'est Arichut Achaim. Le fait qu'on allonge la vie. On y est. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on allonge la vie, mais pas forcément en bonne santé. Donc, deuxième étape, on allonge la vie en bonne santé. Mais tout ça, ça se fait doucement, ça se fait truc. Et l'évolution des consciences aussi.
Ça, c'est une évolution technologique, une évolution des consciences,
Nahon.
De ce qui est moral et ce qui ne l'est pas.
Nahon. Et il y a toujours, dans tous les événements, il y a ce qu'on appelle Klipa Shekodemet Lapri. Il y a toujours l'écorce qui précède le fruit. Et dans la majorité des cas, il faut l'enlever l'écorce. Elle a l'air très jolie, elle a l'air très attirante, mais ce n'est pas elle qui peut nous nourrir. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui s'appelle le déconstructionnisme. C'est le post, tout ce qui est post quelque chose. Post-modernisme, post-sionisme, post-post-post-post-post-post. Voilà. C'est, on est dans une génération qui veut tout déconstruire. Et ça a l'air très attirant de se dire, attends, mais finalement, il faut laisser à chacun la possibilité de... C'est-à-dire, on va aussi apprendre de ça. On va aussi apprendre de ça, on va garder ce qu'il y a à garder, on enlèvera l'écorce qu'il y a à enlever pour amener à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus profond. Donc, est-ce que le monde, il va changer, il va être magique? Non, il ne va pas être magique, mais il va changer. Et il est déjà en train de changer. Et lorsque l'avènement messianique sera là, eh bien, ça sera encore mieux que c'est maintenant. Comment ça sera exactement? Comme on dit en yiddish, qui vivra, verra.
Afizon, Toda Rabba. On se retrouve le 14 mai à Ra'anana pour parler du post-sionisme. Justement, la transition est belle. On vous invite à vous abonner, à mettre un like, à écrire un commentaire. Ça aide toujours au référencement de la vidéo et du cours. Et en vous souhaitant une excellente journée, et on se revoit pour une émission politique, Torah, on avait dit.
Allez,
on verra.
Amen.
Chazak Tadarabha.